marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Le témoin de ce vendredi, Jean-Paul Kaufmann, Venise, à double tour.
C'est ici, à Venise, au début des années 70, nous étions partis en vacances avec Lacan en famille. Un jour, arrivant devant une église que nous souhaitions visiter et qui était fermée, celui-ci commença à tambouriner sur la porte jusqu'à ce que le sacristain finisse par descendre. Je ne sais pas ce que Lacan lui murmura à l'oreille, mais le sacristain ouvrit aussitôt son église et mit un point d'honneur à nous la faire visiter. Je me suis dit, étonnant ce Lacan. Il est donc capable d'ouvrir des portes qui auraient toutes les raisons du monde de rester fermées.
Venise a compté jusqu'à 140 églises. Les entretenir quand les fidèles manquent, c'est un puits sans fond. Une quarantaine sont donc fermées ou seulement entrebâillées. Les ironistes assurent que Napoléon, pourtant obstiné à rabaisser la République qu'il avait vaincue, n'en a pas détruit assez. Que ces églises dérobent à la vue la substance qu'elles contiennent, paraissait insupportable à Jacques Lacan. Il tambourinait donc à leur porte. La légende dit même qu'une fois, après avoir arraché le droit d'entrée, il exigea du sacristain une échelle pour inspecter les statues. Inspecteur des églises fermées. Jean-Paul Kaufmann a rêvé de ce titre qui lui aurait permis de rôder à la recherche de l'interdit, ou qui sait, de dénicher de l'inédit. Ben oui, parce que ceux qui écrivent sur Venise continuent à se demander naïvement s'il leur serait possible de découvrir quelque chose d'inédit. Heureusement, les institutions veillent. Le patriarcat de Venise, propriétaire d'une bonne part des églises fermées, ou d'autres établissements, dont Jean-Paul Kaufmann aurait aimé qu'ils soient plus hospitaliers, eh bien, refuse l'entrée. On ne peut ne plus avoir le pouvoir de redonner vie à ce qu'on possède, on en garde néanmoins les clés et jalousement. Lacan disait, avec le catholicisme, on trouve toujours des arrangements. On va voir si c'est le cas. Jean-Paul Kaufmann va devoir ruser. Lacan ajoutait, on ne franchit jamais une porte qu'à sa taille.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Nouveau livre aux éditions des Équateurs. Alors je vois déjà la réaction de beaucoup de lecteurs. Ah, il est allé traîner sa mélancolie dans cette ville.
Mais je ne suis absolument pas mélancolique.
Ah oui ?
Bah non, je ne traîne aucune mélancolie.
Et ça vous donne de l'alacrité, dites-vous, d'aller à Venise ?
Oui, mais pas uniquement à Venise, oui, c'est vrai. J'espère que ce livre, d'ailleurs, est traversé par cette gaieté, cette joie, cette alacrité. Moi, je souscris absolument pas à ce mythe de la Venise décadente, finissante. Moi, c'est tout à fait le contraire. Pour moi, c'est la ville de la jouvence et, en effet, de l'alacrité.
Il y a un seul moment où Venise vous rend triste, c'est le moment où nous sommes et où vous n'êtes pas à Venise, je veux dire le carnaval.
Ah, quelle tristesse, ce carnaval. Cette bambochade l'a créée en 1980. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est vraiment ce que j'appellerais, oui, la caricature de Venise, le tourisme mondialisé. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça aussi qui est le miracle de Venise. C'est toute la vulgarité, tout le mauvais goût de la planète s'est rassemblé dans cette ville. Et en même temps, sa beauté n'en est pas ternie.
Alors, vous avez des souvenirs beaucoup plus anciens. 1968, 69, enfin, vous savez plus très bien. On est à un bloc de passé, hein. Et, en compagnie d'une jeune fille, je pense, hein.
Oui.
Oui. Un mur, un tableau, une église, mais un peu flou dans la mémoire.
Oui, bah, c'est une impression. Bah, je pense que beaucoup de gens ont éprouvé la même chose. Vous voyez, quelque chose, un tableau qui miroite dans le clair-obscur. On revient à Venise plus tard, puis on se dit, tiens, bah, j'aimerais bien retrouver cet endroit. Où était-il ? Et puis, je suis parti à la recherche de ce tableau, de cette impression. Et bon, comme je connaissais à peu près toutes les églises ouvertes de Venise, je me suis dit, bon, ça ne peut se trouver que dans les églises fermées.
Mais vous avez un grand souvenir aussi en 1983 à Venise, c'est celui de la visite avec Hugo Pratt, qui le premier peut-être vous a signalé l'intérêt des églises scellées, parce que il était à l'affût de tous les mystères. Il en fabriquait même des secrets de Venise.
C'est joli, ça. Hein? Il y a une certaine partie de la ville qui est cachée parce que il est bloqué, on ne peut pas entrer.
Stefano! Stefano! Stefano!
Et quand, j'espère qu'il va arranger, il aura la possibilité un jour d'entrer dans cette ville un peu mystérieuse. Mais... Durant la journée, vous ne vous rendez pas compte. Mais la nuit, si vous regardez Venise, il est éteigné. Il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que ce sont toutes des maisons vides.
La nuit, on ne voit pas de lumière. Il parlait à Jean d'Ève depuis le Lido. Et vous, vous allez vous installer à Venise, dans une île au sud, à la Giudecca. D'où vous verrez des églises, dont certaines fermées, comme ça, qui s'offrent à vous.
Oui, mais quand on m'a proposé, là, j'ai cherché un lieu pour regarder Venise pendant ce séjour de plusieurs mois, et je voulais pas entendre parler au départ de la Giudecca, parce que c'était à l'extérieur de Venise, mais j'avais tort, évidemment, puisque c'est là où on jouit la plus belle vue de Venise, tout Venise vous est offert, et puis c'est aussi la Venise telle qu'elle existait il y a 40 ans, la Venise historique, et qui a disparu. C'est-à-dire que vous avez des commerces, et y avait tout là en bas de chez moi, il y avait même les pompes funèbres. Donc j'étais gâté. Et puis il y a des églises fermées qui aussi créaient chez moi un sentiment de frustration, parce que un certain nombre de ces campaniles, de ces clochers, eh bien c'était des églises fermées, et elles me provoquaient un peu, ces églises de loin. Donc vous voyez, je n'étais pas tout à fait en paix quand je regardais cette Venise avec ce canal de la Giudecca avec tous ces sons, tous ces bruits, vous voyez tous les bruits de bateaux, etc., qui sont souvent insupportables. Pourquoi à Venise on ne s'en lasse pas? Il y a une réverbération du son tout à fait particulière. D'ailleurs, qu'un musicien qui est né à Venise avait très bien analysé, Luigi Nono. Et quand j'étais dans cet appartement de la Giudecca la nuit, je voyais juste en face mon salon Jésuiti, à ne pas confondre avec les Jésuiti, et cette espèce de silhouette blanche là dans la nuit, cette espèce de falaise, c'est une sorte d'amer là que je voyais, et pendant des mois donc je contemplais cette église.
Mais aux Jésuiti, je dis bien les Jésuiti, c'est ouvert, on peut appuyer sur une lumière et l'étoile s'éclaire. Il y a celle-ci qui n'est pas commune, c'est le martyr de Saint-Laurent. Saint-Laurent qui a été brûlé sur un grill. Et puis, je vous prie de croire que le Titien qui a peint la toile a nourri un feu d'enfer sous le corps de Saint-Laurent. Et voici que Gérard Rondeau, l'un de vos amis les plus chers, pénètre, en compagnie d'un grand peintre contemporain, très bon analyste de la peinture, Roberol, au Jésuiti. J'ai bien dit Jésuiti, hein.
C'est intéressant parce que ça montre bien que dans l'œuvre d'un très grand peintre comme le Titien, il y a des tableaux plus extraordinaires encore que d'autres. Il y a vraiment des sommets comme ça. Et un peu éloigné quand même hein, du bon goût du Titien, quoi. Et c'est un tableau de mauvais goût. Hein. C'est quand même un Titien surprenant, dans la mesure où il n'est pas quand même pas très gentil. Hein. Il est plutôt extrêmement violent. Et j'ai envie de dire que il sent le Il sent le cochon grillé plutôt qu'une odeur de sainteté. C'est quelque chose qui me frappe, la vérité du martyr. Tiens, ça s'est éteint.
Ah, ça oui, la minuterie, c'est fini. Il faut souvent payer, d'ailleurs, pour entrer dans les églises. Ça fait plaisir d'entendre parler du Titien comme ça. Ça sent le cochon grillé, parce que, en histoire de l'art, quel bar, ben, on vous explique le colorisme différent du luminisme, et puis le maniérisme du Tintoret que le Titien a chassé de son atelier, et puis le rapport avec Véronèse et la concurrence entre les ateliers. Tout code que vous n'aimez pas.
Bah ça, ça ne m'a pas intéressé ce classement. Mais bon, ces peintres, vous parliez du Titien. Bon, pour moi, la plus belle toile de Venise, elle se trouve au musée de l'Accademia. C'est une toile du Titien, c'est la Pietà. C'est quelque chose de magnifique. D'ailleurs, on n'a pas l'impression que c'est pas un tableau de la Renaissance. On a l'impression que ça a été fait par l'impressionniste, ce Christ désarticulé, avec sa mère là qui essaie de le retenir, et puis ces abominables figures de lion. Rien que pour ça, il faut aller à l'Accademia. Mais vous savez, le Titien n'est pas, en effet, en odeur de sainteté. Je cite souvent dans mon livre, Sartre détestait le Titien. Lui préférait le Tintoret. D'ailleurs, je crois qu'il s'est, d'une certaine manière, identifié au Tintoret. Voilà. Bon.
Titien, Véronèse, Tintoret, on présente le triumvirat du XVIe siècle. Ces gens se disputaient les commandes, rusant parfois pour les obtenir. Les commandes des églises et des scolés. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, les scolés? Et puis, il y avait aussi les commandes privées des palais.
Bah, les scolés, c'est très important à Venise parce que c'était des institutions de bienfaisance extrêmement riches qui secouraient à la fois les pauvres et puis qui passaient aussi des commandes. Et la richesse, la beauté de Venise leur doit beaucoup. Vous citiez tout à l'heure Véronèse, parmi le trio. Je crois que dans ce livre, l'impression la plus saisissante que j'ai éprouvée, c'est certainement ce jour où je suis arrivé dans un atelier d'une restauratrice de tableaux et il y avait un tableau. Alors il faut savoir, Venise était plongée dans le brouillard, il y avait très peu de lumière et cette toile au milieu de son atelier qui irradiait, mais qui foudroyait, et elle était de Véronèse. Et pour moi, ça a été quelque chose de... ça a été un choc. Et je crois que c'est certainement l'impression la plus remarquable que j'ai éprouvée pendant ce séjour de plusieurs mois à Venise.
Dans le dernier quart du XVIe, ils meurent tous les membres du triumvirat, l'un après l'autre, Titien, Véronèse, Tintoret. Et vous les remplacez dans vos promenades souvent par Palma le Jeune.
Ah, Palma le Jeune. Il est partout comme le persil, disent les Vénitiens. C'est-à-dire qu'il faudrait recenser les églises où ne figure pas Palma le Jeune. Alors, c'est pour moi un peu le peintre fétiche de Venise. Il est très critiqué parce qu'on trouve qu'il est un peu facile, un peu opportuniste, mais quelquefois, il peut être extrêmement intéressant. Je citais tout à l'heure la toile du Titien qu'on trouve à l'Accademia, la plus belle peinture de Venise, à mon sens. Eh bien, c'est Palma le Jeune, figurez-vous, qui a terminé cette toile, puisque le Titien était mort de la peste. Bon, donc, c'est pas rien. Déjà, rien que pour cela, il faut être indulgent avec lui. Et Palma le Jeune, et c'est un peu mon ange gardien durant cette enquête, qui est une enquête aussi policière. Il est toujours là, il m'accompagne, et je reçois un certain nombre de clins d'œil, de signes de sa part.
Le détective que vous êtes a des moments d'attente, on les racontera tout à l'heure. Il peut les mettre à profit en allant voir d'autres lieux qui sont un peu inaccessibles que les églises, par exemple le palais Labia. Il faut être journaliste, hein, parce que la RAI est installée maintenant. Il y reste quand même la grande fresque dans la pièce centrale de Tiepolo. On va entendre une musique qui fait écho aux événements de 1951 à Venise, le bal qui a clos la grande période féerique de la ville et qui était organisée par un Mexicain dont la richesse était un peu suspecte, peut-être, mais la magnificence très grande. Bestégui.
Charles de Bestégui.
C'était comment ce bal,
Jean-Paul? Bah, c'est le bal du siècle, la dernière fête européenne. Alors, assister à cette fête, il y avait 1500 invités, je crois. Il y avait Barbara Hutton, il y avait Orson Welles et il y avait Paul Morand. Et il y avait un absent de taille. Bestégui n'avait pas invité une méchante fée. Le journalisme, c'est Cocteau qui dit cela.
Que la fête se répercutait, phénomène de réverbération, dans les rues, dans les canaux adjacents.
Oui, le peuple, on peut le dire, applaudissait. Vous voyez, il participait pas à ce bal, mais il était content.
Et les privilégiés dansaient sous la fresque de Tiepolo.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Tiens, si on veut suivre tout l'itinéraire de Tiepolo, il y a le nom de toutes les églises là sur le plan. La Pinacoteca Querini, l'église de l'Ospedaletto, la Chiesa di San Francesco della Vigna, la San Maria della Consolazione, Palazzo Ducale, San Marco, San Benedetto, San Ste, San Polo, la Scuola Grande dei Carmini, la Scuola Grande di San Rocco, la Carrezzonico, gli Scalzi, il Palazzo Labia, Sant'Alvise, Sant'Apostoli, la Chiesa di San Maria del Rosario e poi la Cadenia.
Circulant dans Venise, on peut faire comme Colette Fellus, qu'on entendait à l'instant dans une émission de France Culture, je sais pas, l'inventaire des Tiepolo, dans tous les lieux où on en trouve. Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour, ça vient de paraître aux éditions des Équateurs. C'est un autre projet, ô combien plus compliqué, se faire ouvrir les églises fermées.
Oui, il faut quand même se figurer ce moment exceptionnel lorsque vous faites ouvrir la première église, une église qui est fermée depuis 50 ans. Hein, vous la faites ouvrir. Vous avez quelqu'un qui de l'extérieur ouvre les deux pans de cette église et puis vous avez un moment de saisissement là. Tout cela est plongé dans les ténèbres et puis d'un seul coup tout s'éclaire. C'est un moment exceptionnel et c'est un privilège aussi de pouvoir savourer un tel moment.
On peut faire l'inventaire des églises fermées ?
Oui, on peut le faire. Enfin, on en connaît le nombre. Il varie parce qu'il y a aussi des églises là qui ferment parce que le prêtre était âgé, il est mort et puis on peut pas le remplacer. Donc l'heure est au regroupement. Donc les églises ferment aussi parce que il y a de moins en moins de fidèles, il y a de moins en moins de prêtres et il faut savoir que ces églises là, on est en Italie. Ces églises, il n'y a pas eu de séparation de l'Église et de l'État. Donc elles relèvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en grande partie, pour une large part, du patriarcat. Alors justement, pour moi, ça a été... au départ, ça sera très facile de se faire ouvrir toutes ces églises fermées, mais ça s'est avéré extrêmement difficile du sport. Et c'est ce que je raconte. Il y a un côté tout à fait enquête policière dans ce livre. D'abord, pourquoi ces églises sont fermées, hein? Et puis, qui en détient les clés à l'intérieur du patriarcat, puisqu'il n'y a pas de cardinal-évêque à Venise, c'est un patriarche. Donc, il faut l'identifier, et je l'ai identifié, et c'est quelqu'un que j'ai fini pas rencontré, mais qui était, j'allais dire, un maître de l'esquive. Quand je l'ai rencontré, je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, alors, est-ce que je peux visiter tel lieu ? Il me dit, c'est moi qui décide. Il m'a proposé trois églises, il y en a deux qui m'intéressaient pas tellement, et puis, à la suite de cette conversation, il m'a dit, rappelez-moi, je n'ai cessé de le rappeler, et il m'a fait faux bond.
Oui, mais vous avez quand même beaucoup de ressources dans votre sac,
ah, oui, mais
des alliés, une épouse, des ruses, et puis vous repérez d'autres propriétaires que le patriarcat, mais le lecteur suivra vos aventures, Jean-Paul Kaufmann. Et j'insiste sur la nécessité de l'attente. Alors qu'est-ce que vous faites pendant que vous attendez? Vous allez voir les autres églises ouvertes, vous allez voir les musées, vous mangez des yeux les gens.
Ben, je regarde, oui, ben parce que c'est à Venise, les cinq sens sont mis à contribution, et évidemment, la vue et l'odorat aussi, parce que ces églises fermées que je me suis fait ouvrir ont chacune une odeur tout à fait particulière que j'ai essayé de décrire. Mais j'ai trouvé aussi ce que je ne cherchais pas. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, ce qu'on appelle la sérendipidité.
Hein, vous l'avez
par
bien
exemple,
dit.
Il y a un lieu absolument envoûtant à Venise, c'est le plus grand jardin qui existe à Venise. Personne ne peut le visiter depuis une vingtaine d'années. Et moi, tout à fait par hasard, j'ai eu un pot d'enfer, comme on dit, et j'ai pu visiter ce jardin, le jardin d'Éden. Et vous voyez, c'est bête à dire, mais il ressemble beaucoup au jardin d'Éden de la Bible. C'est le jardin de l'éternel printemps. Je l'ai visité au mois de janvier. Et c'était, les oiseaux gazouillaient, la verdure était partout, et c'était d'ailleurs que des essences avec des feuilles. Et oui, là, on était dans un lieu d'avant la chute, avant le péché originel. Non, mais c'est la nature. Alors, on m'avait dit le jardin d'Éden. De toute façon, on peut pas le visiter parce que il est en ruine. Il est absolument pas entretenu. Si il est entretenu, la nature y a ses droits et chaque chose est véritablement à sa place dans ce jardin. D'ailleurs, Marcel Proust a demeuré, Jean Cocteau a fait un poème sur ce jardin d'Éden.
Mais vous parlez du jardin d'Éden au printemps, mais il faudrait parler de l'hiver, vous évoquiez les moments de brouillard. De qui est ce texte qui concerne l'hiver à Venise et qui est lu par André Velter?
Il fait froid. Ces pâleurs grises au loin, ce sont des palais. C'est comme ça ici. L'air, l'eau, le feu et la pierre ne cessent de se mélanger ou de s'intervertir, d'échanger leur nature ou leur lieu naturel, de jouer aux quatre coins ou aux chats perchés. À la surface de ce gouffre à l'envers, une écume floconne bien inutilement pour dissimuler l'indubitable vacance du soleil. Dès qu'il le peut, cet astre se défile. Il n'ignore pas qu'il est indésirable et que Venise s'obstine à voir en lui l'image abhorrée du pouvoir personnel. Elle consomme en réalité plus de lumière que Palerme ou Tunis, surtout si l'on tient compte de ce qu'elles absorbent, ces hautes ruelles sombres. Mais elle ne veut pas qu'il soit dit qu'elles doivent le jour qu'il éclaire aux libéralités d'un seul.
Un texte de qui, Jean-Paul Kaufmann?
Ah bah je donne ma langue au chat, il y a tellement de gens qui ont écrit
Jean-Paul Sartre.
Ah bah
vous l'avez pas reconnu?
Ah non, absolument
mais
pas.
Vous n'êtes pas de ceux qui disent « Sartre est dépassé ».
Ah ben, je ne cite que lui dans ce livre. J'avais beaucoup d'admiration pour le Venise de Morand et finalement, je trouve que le charme opérait moins. Et j'ai trouvé un remplaçant, Jean-Paul Sartre, car la reine Albemarle, toujours beaucoup de difficultés à prononcer, est un des plus beaux textes qu'on ait écrit sur Venise, sur l'eau de Venise.
Parce que Sartre est spongieux.
Oui, alors que Morand est sec. Et oui, il est de toute façon, Sartre est fasciné par l'humide, par le spongieux. Et finalement, il a essayé. Alors, je crois que Sartre a eu un projet insensé véritablement, c'est de mettre Venise à sec. Il n'y est pas tout à fait parvenu parce que cette ville, finalement, a de la ressource. Mais au fond, c'est un, ce texte-là est une tentative d'épuisement de Venise. Bah, il a fait un peu comme Georges Perec, il s'est assis derrière sa fenêtre, la fenêtre de son hôtel, et puis il a observé l'eau. Mais en même temps, c'est une eau malsaine, hein, c'est une eau avec ses horribles salsifis. Il a des descriptions qui sont un peu, qui sont pas très ragoûtantes, hein, de cette eau de Venise. Vous voyez cette eau croupie, voilà. Donc, bah, il, vous savez, Paul Morand a dit « Les canaux de Venise sont noirs comme de l'encre. » Et l'encre de ceux qui ont écrit sur Venise. Et d'ailleurs, Morand dit que c'est le devoir de ceux qui écrivent de tremper à leur tour leur plume dans cette encre. Et bon, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est quand même la ville sur laquelle on a le plus écrit, Venise. Hein,
et donc on ne peut pas trouver de point de vue inédit, expliquez-vous. Cependant, vous,
non,
vous
c'est
en
pas
avez...
moi qui le dis, c'est Marie McCarthy. Elle dit, il faut pas faire son malin avec Venise. Hein. Il faut accepter la beauté de Venise telle qu'elle est. Il faut pas être paradoxal. Il faut pas être sophistiqué. Et il y a un autre écrivain américain que je cite, qui est Henry James, et qui dit, toute façon, on ne dira jamais une chose originale sur Venise, et le jour où on pourra dire une chose originale sur Venise, ça sera vraiment pas bien.
Le lecteur verra si vous avez épuisé l'interdit que vous cherchiez à combattre, les églises verrouillées, fermées, entrebâillées, enfin, vous mettez beaucoup d'obstination. C'est, bah, c'est votre qualité, l'obstination.
Bah oui.
C'est une qualité défaut, de... c'est une qualité moindre.
C'est une qualité journalistique, hein, aussi.
Voilà, oui.
Hein,
oui.
Parce que c'est aussi le livre d'un journaliste, hein, qui part à la recherche que les journalistes, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est aller vers les choses prohibées, interdites, hein, les choses qu'on ne peut pas voir habituellement. Et moi, j'ai toujours été un peu guidé par ça. Je veux toujours voir l'endroit où il est indiqué staff only, no touristes. Donc moi, je veux aller voir, non pas je ne veux pas entrer obligatoirement, mais je veux connaître le code secret. Pourquoi il y a un interdit. C'est ça qui,
oui, mais
c'est ça qui m'intéresse.
Vous recherchez ce qui fait défaut aussi, ou ce,
oui,
qui vous fait défaut.
Bah oui, le manque. Oui, c'est vrai, l'absence, le manque, c'est vrai. Bah, ces églises fermées, c'est cela. Ces églises fermées, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elles? C'est ce que me disent mes amis qui viennent me voir à Venise. Ils me disent, mais pourquoi? Mais c'est une lubie chez toi, que il y a tellement d'églises ouvertes, elles sont belles, il y a une profusion, toute cette beauté, etc. Déjà, si tu peux en venir à bout, ça sera pas mal. Et pourquoi t'intéresser à ces églises fermées? Ben, je crois que dans les églises fermées de Venise, il y a aussi une intériorité secrète. Il y a quelque chose. Et oui, puis il y a un secret. Le secret de la chose interdite ou prohibée, on est là. Je me suis rendu compte qu'aussi, au bout d'un certain temps, ça pouvait être répétitif, une église fermée qu'on vous ouvre. Mais je parle un moment de la présence de l'absence. Oui, il y a une présence. Alors, quelle est-elle? Je vais pas dévoiler l'essence, enfin, c'est peut-être un bien grand mot, mais je vais pas dévoiler le sens de ce livre.
Donc, c'est au lecteur de vous accompagner, Jean-Paul Kaufmann.
Exactement.
Venise à double tour, c'est aux éditions des Équateurs. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, avec à la technique Julien Dumont, la réalisation Audrey Ripouille.